Deutsche Welle. Le club de l'auditeur.
J'ai été arrêté et expulsé dans des conditions indignes après 2 ans et demi passés en Algérie, nous raconte un Guinéen qui a tenté l'aventure de la migration. On en parle avec lui dans un instant dans ce club des auditeurs et internautes animé par Mireille Drone comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h temps universel. Bienvenue à toutes et à tous. Et un grand bonjour à tous ceux qui nous sont fidèles et nous envoient des petits coucous ou commentaires par mail ou via les réseaux sociaux, WhatsApp ou Facebook, comme Thierry de Bertrichamps dans le nord-est de la France, en Lorraine, Aimé d'Atapamé au Togo, Bilal de Bamako au Mali, Jules de Niamey au Niger, Timothée d'Abidjan, Côte d'Ivoire, bienvenue de Bukavu en RDC, ou encore Ismaël de Kélo au Tchad. Alors merci à tous. Et puis félicitations à Kamel de Boussada et à Issa de Blida, tous les deux en Algérie, qui ont fêté cette semaine leur anniversaire. L'immigration irrégulière. À l'instar de nombreux autres pays d'Afrique, elle prive chaque année la Guinée de milliers de jeunes qui, faute de trouver les conditions de vie dont ils rêvent chez eux, préfèrent partir ailleurs. Ces personnes, souvent de jeunes hommes dans la force de l'âge, n'ont en général pas de formation ou pas d'emploi à la hauteur de leurs attentes, qui leur permettent de s'insérer convenablement dans la vie active. Ces jeunes gens abandonnent tout et prennent des risques énormes en traversant le Sahel, où ils font l'objet de violences, d'enlèvements, de raquettes au cours de leur périple, alors qu'ils portent en eux l'espoir de leur famille, voire même de leur communauté. Tierno de Sigiri, en Guinée forestière, est l'un de ces migrants. Il a été tenté par l'aventure et il en est revenu, heureusement vivant. Il nous raconte ce qui l'a poussé à prendre le chemin de l'exode.
En fait, vous savez, vivre chez nous ici, c'est pas quelque chose de problème, mais seulement arrivé à un certain âge, tu vois que tu vis dans une famille, bon, tout est impossible de gagner la vie, le problème. C'est-à-dire, vous êtes mature, vous n'êtes plus jeune, mineur. Vous voyez qu'il y a des milliers, des centaines de milliers qui ont terminé des études avec des diplômes, mais les diplômes ne leur rien servir, comme vous aussi vous étudiez, mais il y a un découragement qui vient en vous. Et bien, avec la modernisation, partout il y a la télé, il y a les internets, on voit ce qui se passe ailleurs. Les gens sont attirés par ces images, cet Eldorado vers chez vous là-bas, on est attirés, on dit, mais une fois que nous aussi nous sommes là-bas, peut-être nous serons comme eux. Et tout ça qui nous pousse maintenant, même le peu que nous avions ici, même si nous pouvions faire des petites entreprises. Et puis aussi, il y a l'incivisme qui règne en nous, quoi. Parce que l'esprit d'entreprise, ça nous manque, il faut le dire en vrai. Oui. Même le peu qu'on a maintenant, on peut prendre ça pour aller suivre une voie infernale, la voie de l'enfer en quelques mots, parce que ça ne va pas du tout. Oui. Actuellement, il y a des milliers de jeunes qui sont là, au chômage.
Et qui ont des qualifications, des diplômes pour des métiers dont on a besoin réellement?
Mais même si on est qualifié pour le métier, il n'y a pas des entreprises ici sur place qui peuvent vous employer. Ça va servir à quoi?
Oui, à moins de vous être à votre compte, de demander éventuellement un crédit.
Mais on ne peut pas t'embaucher, même si vous demandez des crédits pour qu'on puisse vous faire des empreintes. Ils ne vont pas le faire. D'ailleurs, vous n'avez pas de compte à la banque. Et l'État n'a pas créé une politique pour venir soutenir aux gens qui veulent créer des entreprises, même si vous travaillez à votre propre compte. Mais le marché, il n'y a pas de clients sur le marché. La population est en majorité pauvre.
Mais avant de partir, vous aviez fait quelle formation? Vous aviez une qualification quelconque?
Bon, je n'avais pas une qualification professionnelle. Je me suis consacré seulement au niveau de mes études. Mais ces matières littéraires, ça ne va rien servir parce que je n'en ai pas eu mon master. Je me suis limité seulement au niveau de la licence. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de moyens pour poursuivre des études, pour avoir un bon diplôme chevronné là-dedans. Il n'y a pas les moyens. Maintenant, on se consacre seulement. C'est que les moyens dont l'État a mis à notre disposition et on s'arrête là.
Parce que pour devenir enseignant, par exemple, il aurait fallu que vous poursuiviez jusqu'au master.
C'est pas le cas. Est-ce que dans l'enseignement maintenant, il faut aller dans le domaine privé et tu vois que ce qu'on te paye là-bas, ça n'arrive pas à couvrir tes dépenses mensuelles. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu préfères alors te débrouiller dans la rue, ce qui va arriver au moins à te nourrir. Mais toi, un jeune, tu es marié et tu as des enfants Et puis, il y a une famille là encore qui dépend de toi. Tes parents doivent soutenir parce que chez nous ici, la famille compte beaucoup en Afrique.
Bien
ici.
Sûr, et il faut la soutenir.
La famille compte beaucoup, les liens, les soutenir. Parce qu'une fois que tu finis tes études, tu dis, mais il a fini ses études, il doit faire quelque chose pour nous.
Et donc, vous avez parce décidé que... de prendre la route donc, de l'exode parce que vous n'arriviez pas à soutenir, par exemple, votre famille, vos parents.
Bon, en fait, vous voyez que j'ai fini mes études, je n'ai pas d'emploi, je ne sais rien. Et je suis majeur maintenant. Je ne peux pas toujours compter sur la famille pour me venir en aide. J'ai vu que le peu que je me suis débrouillé pour gagner, j'ai contacté un frère. Et lui, il m'a fait un coup de main au moins, un équivalent quelque chose de 150 euros, comme ça, le moins. Et le peu encore que j'en avais sûrement, j'ai décidé d'emprunter cette voie fermale. Mais arrivé là-bas, c'est là-bas que je suis maintenant. Si on croyait que c'est rose, ce n'est pas ça.
C'est-à-dire que vous êtes parti à l'aventure sans savoir ce qui vous attendait, sans avoir quelqu'un que vous connaissiez. Vous avez pris la route, tout simplement.
Mais pour tous les Africains subsahariens, c'est comme ça. On ne part pas sur l'adresse de quelqu'un. On se jette là-dedans seulement.
Donc vous avez mis le cap sur l'Algérie. Vous avez dit, on va voir arriver là-bas. Si je peux passer en Europe ou si je reste en Algérie.
Bon, en fait, moi, je n'avais jamais envisagé traverser l'eau. Je n'avais jamais envisagé. Je comptais aller en Europe, mais si je pouvais mettre tout à mes dispositions, à faire mes documents, parce que je me disais par rapport là-bas, c'est un pays qui est hautement développé par rapport à chez nous ici. Une fois que je me constate que j'ai de l'argent, et j'essaie à régulariser tous mes documents, peut-être que je pourrais bénéficier d'un visa pour aller en Europe. Mais je n'ai jamais mis en tête qu'un jour je pourrais aller traverser la Méditerranée.
Donc vous êtes allé jusqu'en Algérie en réalité?
Je suis allé jusqu'en Algérie, j'ai passé quelques temps au Maroc et puis je suis retourné.
Et vous êtes allé seul par la route ou avec d'autres?
Je ne suis pas allé seul, on est parti en compagnie une fois que j'ai bougé de chez moi ici, arrivé à Bamako. Et j'ai emprunté un bus là-bas jusqu'à destination Gao. Arrivé à Gao maintenant, ces îles nous ont pris comme des animaux parce que les gros camions qui transportent les marchandises entre l'Algérie et le nord du Mali là-bas, c'est ces gros camions-là maintenant, on prend en charge les gens comme des animaux. On ne cherche même pas à savoir, vous vivez ou pas, je s'en fous. La route même que nous avions empruntée, on a fait une semaine sur le désert et logiquement, on a eu la chance, sinon on allait mourir parce que le démarrain des camions avait refusé. Il fallait que certains endroits qu'on descende pour qu'on puisse et on aille. Là, je me suis vu que j'ai mis ma vie en risque, en péril. La route que je suis en train, toute alimentation qu'on avait finie, maintenant on se nourrait de biscuits et les boîtes de sardines qu'on avait entre nous, on s'est partagé ça entre nous. Il y a des gens qui arrivaient même à l'arrivée, il y a d'autres qui meurent sur la route parce que moi, je connais un ami avec qui on faisait tout, mais d'ici qu'on arrive à la première ville de l'Algérie qui est dit Timiaoui, la maladie qu'il avait prise, je ne sais pas, mais lorsque j'ai eu un peu d'argent, moi j'ai traversé, mais je savais que s'il arrivait à survivre, c'était un miracle. Parce qu'il était là, il était abandonné, il a dépéri, l'homme qui pesait au moins 80 ou 90 poids. Si tu vois du jour au lendemain, il ne fait que perdre du poids. Il avait maintenant dans les 40 ou 45 mois, ça m'a étonné. Mais personne n'a les moyens, on est là, personne ne peut soutenir quelqu'un d'autre. Les gens qui sont là, c'est nos frères africains encore qui sont là, qui ont fait des foyers. Et aussi, ils essaient d'escroquer les gens. C'est une sorte de réseau trafiquant, mais c'est une vraie escroquerie. Parce qu'on arrive dans la première ville, la Zawad est là, qui est en train de nous soutirer l'argent, arriver là-bas. C'est un réseau qu'ils ont mis. Tu n'arriveras avec aucun sou. Maintenant, ils t'ont enlevé tout. Tu es obligé de faire une escale là-bas puisque tu appelles tes parents pour qu'ils t'envoient de l'argent. Et cet argent, il n'y a pas banque. Obligatoirement, cet argent va passer par leur canal et ils vont enlever ceux qui l'ont enlevé là-dedans et te donner le reste.
Oui.
Maintenant, c'est tant pis pour toi. Et ils ont gagné. Avec ça, il y a quelqu'un qui est là-bas pour contrôler. Au cas où, s'il y a un migrant qui est venu, un jeune noir qui est venu pour dire qu'il va emprunter un bus, et ils essaient de rentrer en contact avec les gens, les chefs de foyer là-bas. Ils disent, hey, est-ce que c'est pas un de vos gens qui veulent fuir? Maintenant, malheur pour toi, s'ils viennent te voir là-bas et que tu es un de leurs hommes, ils vont te faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de contrôle. L'autorité qui est là, ce n'est pas suffisante, mais ils s'en fichent des cas concernant la communauté noire. Mais l'heure du départ maintenant, moi, je suis monté, je me suis embarqué, je suis arrivé à Tamaracet et l'argent qui m'est resté, je suis parti à Gardea. Arrivé à Gardea là-bas, je n'arrive pas à supporter le climat parce que c'était en été. De faire que c'est le Sahara, mais il fait de plus en plus chaud encore.
Oui.
J'ai dit, mais je ne peux pas supporter ça. Parce que là où moi je suis né ici, c'est une zone forestière, il pleut 9 mois, c'est douche.
Oui.
J'ai dit, mais moi je ne peux pas rester. C'est dans cet élan que j'ai profité pour aller à Chiralger.
Mais avec quel argent vous avez pu travailler sur place pour regagner un petit peu d'argent parce que votre famille ne pouvait pas toujours vous envoyer de l'argent par le biais de quelqu'un d'autre?
Non. Parce que j'ai un peu travaillé à Gardea et avec cet argent avec moi, c'est tout ça que j'ai empoché et je suis rentré avec ça jusqu'à Alger. Arrivé à Alger, c'est le pire encore parce que je ne connaissais personne. Et là, j'ai dit, je vais aller essayer d'aller à l'ambassade de Guinée. Mais arrivé, l'ambassade aussi était fermée. À chaque fois, il y a des frères guinéens qui venaient faire des tours s'ils voulaient récupérer leurs cartes consulaires. C'est dans ça que j'ai pu contacter certains d'entre eux. un Samaritain a pu m'emporter là-bas. Dit, alors, tu mon frère, c'est pas un problème, tu vas aller rester chez moi jusqu'à quelques temps. Puis, une fois que tu auras un bon boulot, tu vas déménager. Mmh. C'est dans cet élan que je suis parti chez lui. Premier jour, deuxième jour, et il y a une entreprise espagnole là-bas. Et j'en avais besoin d'un sous-traitant, un main-d'œuvre. Et là, j'ai profité, ils m'ont embauché là-bas. J'ai travaillé quelques mois avec eux. Comme le salaire n'était pas aussi suffisant pour moi, j'ai vu les Chinois. Les Chinois aussi, ils payent, mais le travail était pénible. Mais je préférais ça parce que je voulais gagner beaucoup d'argent. Oui. Et on travaille dans cette misère. C'est de l'enfer terrestre. Parce que les gens syriens qui sont là, l'autorité s'en fiche et ils ne se consacrent pas au droit de travailler, au droit des immigrés. Et
vous travaillez comme des esclaves pratiquement.
C'est des pires, l'esclavagisme. Le Chinois, lui, il te dit de faire ça, tu refuses et il te met au dehors parce qu'on dort sur les chantiers là-bas. C'est là-bas on construit des cabanes pour nous et là-bas on dort. Et à tout moment, on peut être attaqué par des Algériens en ville. Et il y a des frères même qui ont été arrêtés, tout ça, tous ceux qui ont travaillé pendant des années, ils ont été soutirés tout, tout en un coup. Il y a des Algériens qui t'enlèvent, tous ceux qui ont abandonné là-bas.
Mais pourquoi? Par jalousie, par xénophobie, pourquoi?
Bon, c'est du pire racisme, parce qu'ils connaissent que les Noirs travaillent. Et le salaire minimum en Algérie, à l'époque, si on écoutait la radio, les gens disaient que c'est 45 000 dinars. Et si tu travailles dans un chantier chinois, les 30 jours ou bien tu arrives à travailler 29, tu peux t'en sortir à quelque chose de 30 000, 40 000. Si tu travailles avec supplémentaire, tu as au moins 50 000 dinars. Et les Algériens, vous voyez maintenant, les Noirs qui étaient là, leur vie en train de se changer, ils avaient maintenant des appareils de luxe. Mais les jeunes racistes, maintenant, ils sont jaloux et ils profitent de ça pour faire des braquages. C'est des gens qui sont plus.
À la toile à Guinée qui nous y est, des affinés aventuriers.
Mais est-ce que vous aviez le droit de travailler? Vous étiez enregistré officiellement comme migrant?
On n'était pas enregistré, c'est un grand problème.
C'était dans la clandestinité en réalité.
Mais les autorités nous voient, pour faire ça, il faut nous empêcher alors de rester. Parce qu'on se promenait en ville et nous voyait. Dites-nous, vous n'êtes pas les bienvenus. Oui. Là comme ça, on serait comme enfermés, on se promène, on est en ville. Mais l'autorité s'en fiche des droits humains.
Et les employeurs, donc évidemment, ça ne les intéresse pas de savoir si vous êtes légalement là ou pas. Ils vous emploient, et si vous avez un accident, ils vous jettent.
Le Chinois, lui, il veut profiter, non? Mais si vous avez un accident, vous avez un accident pour vous-même. Le Chinois, j'ai vu des frères qui sont morts comme ça. Ils sont tombés, ils prennent les enterres, c'est fini comme ça. Personne ne vient, personne ne se plaint. Mais ils vont faire quoi? Ils prennent une maigre somme là-bas, ils donnent à quelqu'un là-bas, ils disent, va donner ça à ses parents. Et même cette personne ne lui connaissait pas avant. Lui, il profite, il s'emballe avec, c'est fini.
Mais donc, vous avez réussi à trouver un petit local, un endroit où rester, ou enfin un toit sur votre tête?
Moi, tous les temps que j'ai vécu là-bas, le Nord n'avait pas droit à un logement. Non.
C'est-à-dire que personne n'était prêt à vous louer quelque chose si vous étiez noir?
Ah, non. Les Noirs, on ne te donnait même pas le temps. Mais il y a des gens, il y a des bonnes personnes de bonne volonté, il faut qu'on le dise toujours partout, peu importe, mais il y a des gens de bonne volonté. Et ils en avaient pitié s'ils voyaient noir. Mais réellement, ce n'est pas que dans la législation, même si vous partez auprès des entreprises immobilières, ce n'était pas possible parce que même les résidences qu'on fait, ces gens n'étaient pas prêts à accepter noir.
Oui. Après, donc, vous avez en réalité vécu sur le chantier, vous avez habité sur le chantier même.
C'est ça même, la vie en Algérie.
Logé par
c'est l'employeur. Une fois qu'il t'emploie, c'est lui qui te donne une chambre à côté là-bas, c'est là-bas que tu passes tout le monde.
C'est ça, dans les baraquements où vous êtes plusieurs, j'imagine.
Oui, il y a des baraques, il y a des maisons en bas des chantiers. Une fois, on essaie d'encadrer un petit coin là, pour que tu puisses passer l'année, c'est ça. Sinon, pas de logement.
Et à ce moment-là, donc, l'idée que vous aviez au départ, est-ce qu'elle a changé? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais retourner au pays parce que ça ne vaut pas la peine? Ou au contraire, si j'ai mis assez d'argent, je vais tenter l'Europe? Quelle a été votre vision à partir de ce moment-là, quand vous avez vu les conditions, finalement?
C'est deux visions qui m'ont animé. La première, ce que j'ai pensé de l'Algérie, je suis venu voir, c'était le contraire. Et j'avais beaucoup d'amis qui ont traversé la mer et ils sont partis de l'autre côté en Europe. Et bien, je voyais que depuis que j'étais parti, ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de bon. Et ceux qui étaient bons parmi eux, ils me parlaient de la réalité qu'ils étaient en face de là-bas. Et pourtant, en Europe, ils disent que tout ce truc, c'est des illusions. Il ne faut pas croire à tout ce que je vois sur le web, que des fois, les apparences sont trompeuses. Et je me suis dit, mais quelque part, c'est vrai. Si je m'habille bien, je pars au centre d'Alger là-bas et je me fais des photos de selfies. Et je balance ça sur le web. Un jeune qui, ici en Afrique, va dire, mais lui, il vit comme un milliardaire, pourtant je dors sur un chantier. Je me suis vu comment les gens vivent en Italie là-bas, ça m'a vraiment choqué. Même dernièrement, il y a un frère qui a été tué en Allemagne suite à un affrontement avec des Arabes marocains. Je l'ai connu à l'époque, on a fait la même école. a été tué. Il est rentré clandestinement.
Et donc là, vous avez décidé de rentrer. Vous vous êtes dit, ça vaut pas la peine, autant rentrer à la maison.
Oui, j'avais décidé, mais je ne suis pas venu de mon gré aussi, parce que les autorités algériennes m'ont allé m'arrêter le 2 décembre 2016, et j'avais déjà le projet de revenir. Mais ils sont allés m'arrêter, j'étais parti voir un frère malien chez lui. Et maintenant, lui, à la sortie, maintenant, il venait m'accompagner. Ce jour-là, c'était dans la ville de Bablida, c'est Birtuta. Il était là en route un vendredi, il venait venir me raccompagner. Lui et moi, on nous a tous arrêtés. Et les autorités n'ont rien saisi, ils nous ont arrêtés et nous ont envoyés dans le camp d'accueil de Giralda. Dans le banc de 20h22, ils nous ont embarqués pour des bus de Sibéni. Tout ce que j'ai gagné comme habillement et autre chose, tout est resté saisi là-bas.
C'est-à-dire que vous êtes reparti les mains vides?
Non, il faut que je dise ça. Je suis reparti les mains vides.
Oui.
Ils nous ont envoyés jusqu'au niveau de Tamaracet. Après, ils nous ont embarqués des gros camions là-bas pour nous expulser vers le Niger. Et c'est au niveau du Niger maintenant. Je suis arrivé là-bas, j'avais un peu d'argent sur moi. Moi, je n'ai pas accepté de rester dans le camp d'accueil. J'ai profité pour sauter la cour pour aller faire des monnaies. J'ai emprunté un bus directement à destination Niamey. Arrivé à Niamey, j'ai appelé mon frère, il m'a balancé un peu d'argent et j'ai continué ma route sur la Guinée.
Et vous êtes donc retourné par la route à la maison?
Oui, je suis retourné par la route à la maison, mais c'était alarmant parce que tout ce qui est venu, j'ai fait des années là-bas, rentré, arrivé à Bamako, j'ai pris un peu d'argent, fait sortir un peu d'argent là-bas aussi. Je me suis acheté quelques habits. Et après, maintenant, je suis rentré à la maison. Mais c'était humiliant comme ça. C'était pas normal.
Bien sûr.
Il vous valait qu'on nous avertisse.
Votre famille, du coup, était déçue. Enfin, d'un certain côté, quand même, content de vous revoir en vie, j'imagine. Mais déçue que vous n'ayez pas pu mettre un peu d'argent de côté, rapporter quelque chose.
Bien sûr, je n'ai pas mis d'argent de côté. Ma mère, même, elle était très, très heureuse de me voir en vie parce que ça faisait des années que j'avais quitté la famille. C'était tout changé qui était là, ainsi que mon père. Mais comme moi, en tant qu'homme, la seule chose qui m'intéressait, c'était de réussir.
De réussir, oui.
De réussir, avoir de l'argent et le prendre en charge. Mais et la famille, le fait que les nouvelles qu'on leur disait, les gens mouraient sur la route, et il y a des gens qui sont tués par les bandits, et ils voyaient des images parce que les gens arrivaient, les radios locaux les parlaient ici, et ils écoutaient ça. Ça les faisait de plus en plus peur. Depuis que le jour que ma mère a appris maintenant que je suis à Bamako, elle a eu le cœur apaisé maintenant. C'est ça ce qui l'a apaisé. Il est arrivé maintenant en Guinée. J'ai essayé de leur parler de ce que j'ai vécu. Ils m'ont essayé de me consoler. Mais arrivé au premier abord, je ne voulais pas du tout rester. Je voulais gré à gré refaire mes documents, me retourner dans cette même merde. Parce qu'arrivé ici, j'ai vu que tout ce qui s'est passé ici, c'est plus merdier qu'en Algérie.
Donc vous étiez prêt à repartir?
J'étais trop, trop déçu. Parce qu'il n'y a pas. Malgré que je vivais dans cette merde, l'argent que j'arrivais à me faire à la fin du mois, et j'avais commencé à me prendre en charge. Mais je voyais qu'ici, même si je bosse ici, j'arrive même pas à gagner la moitié. C'est déplorable, ça.
Et qu'est-ce qui vous a dissuadé, donc, de retenter l'aventure quand même? C'est votre famille qui vous a imploré de rester?
Bon, ma famille m'a imposé de rester. Et mon frère qui était là, lui aussi, m'a imposé de rester. Mais le plus pur dans ça, je me suis dit, je ne vais plus m'engager dans une aventure clandestinement. Parce que arrivé à Bamako à l'époque, l'Algérie et Bamako, c'est un visa free entrée et tu peux aller avec le passeport malien, rentrer en Algérie sans qu'on te demande un visa. Ça, il y a deux choses. Je voulais aller prendre à l'époque un passeport malien. On m'a imposé d'aller passer devant le tribunal. Et bon, Mali, il ne s'agit pas de s'exprimer en français, mais il faut comprendre leur langue nationale, le bambara. Bien sûr que je sais parler le bambara, mais je me suis dit, une fois que je vais me choper devant le tribunal là-bas, comment je vais faire? Ce projet, je l'ai arrêté. Toutes mes connaissances sur le terrain au Mali m'ont dit que c'est impossible que tu ailles actuellement. En Guinée aussi, je voulais faire la même chose. Je voulais venir prendre un passeport guinéen et rentrer par le Maroc. Mais toujours, il y a quelque chose qui me disait, il ne faut jamais aller chercher quelqu'un maintenant clandestinement. Il faut l'arrêter. Cette clandestinité, j'avais peur de ça. Parce qu'une fois que tu es clandestin, en fait, ta liberté est morte. Hein. Tu n'as plus de liberté.
Oui.
Un clandestin, pas de respect. Tu ne peux même pas t'exprimer dans certaines choses. Tu vois les autorités, c'est comme tu as vu le diable comme ça. Parce que la police, la gendarmerie, tu ne peux pas les voir se jouer. Parce que tu sais que tu n'es pas en règle. Tu les vois seulement, c'est le symbole de la peur.
Et oui, vous vivez en permanence dans la peur au ventre.
Oui, justement. Ouais.
Et donc, vous avez réussi finalement à vous réintégrer, entre guillemets, donc en Guinée, à vous refaire une place un petit peu, tant bien que mal.
Ah oui, c'est vrai. Je vois, je suis venu, mon frère m'a dit de rester. Ben, c'est l'environnement qui fait l'être humain. Et j'en suis sorti au-delà de chez moi, j'ai vu comment les gens ont reçu. La mentalité qui est là, j'ai l'envie de faire une entreprise, de réussir. Oui. Mais ce n'est pas les moyens. Toujours, je me suis dit, une fois que je sors de ma Guinée, je pourrais avoir les moyens pour retourner, recommencer à bosser.
Et en vous mettant à plusieurs, avec d'autres peut-être, éventuellement?
Mais ici, 90% des gens, la plupart d'entre eux, c'est des illettrés. Vous voulez parler d'un esprit d'entreprise, Et la première chose qu'il voit d'abord, c'est le chef de l'entreprise, au cas où l'entreprise est où je vais aller. Mon argent est parti, est ruiné comme ça. Ils ont peur de ça. Des deux aussi, ils ne font pas confiance à la personne qui le dit. Et chez nous, il y a des gens qui ont de l'argent, qui peuvent créer des entreprises, mais ils ont toujours peur. Il y a la peur qui est là. Il y a la peur qui est là.
Il n'y a pas de confiance entre les gens.
Oui, pas de confiance.
Mais
ça
au moins,
le problème.
Mais au moins, vous vivez avec vos proches.
Oui, je vis avec mes proches ici. Mais on espère toujours que ça va aller. On espère, mais vraiment, c'est chaotique. Hein. Mm. Il y a des gens, tu vois, tous les gens qui meurent sur le désert ou sur la Méditerranée, ils sont bel et bien conscients de leur malheur. Ils savent que soit tu meurs, soit tu rentres en Europe, mais le fait qu'ils préfèrent aller tenter leur chance au prix de leur vie, c'est tout ça qui leur donne l'encouragement. Sinon, au départ, il ne s'agit pas qu'ils ne sont pas conscients de ce qui les attend. Ils sont bel et bien conscients. Mm. Même ici, hier, je vois des frères, j'ai essayé de les parler, mais ils disent, mais je préfère aller mourir que de rester dans cette quédale.
Mais j'espère quand même que vous allez donc trouver quelque chose hein, pour vivre finalement, même si c'est évidemment pas sur le long terme, c'est toujours un petit peu difficile, on vit du ouais. jour au jour.
Oui, c'est justement ça que j'en suis en train de faire actuellement. Mm. J'ai des projets actuellement, mon frère m'a fait une petite entreprise de commerce là, je suis en train de gérer ça.
Donc c'est quand même une perspective un petit peu meilleure que de reprendre la route.
Le désert c'est fini, mais j'espère toujours. Parce que dans la vie, une fois qu'on a la foi et la détermination nécessaire, aucune montagne n'est infranchissable. J'ai toujours en tête de réussir. Et Inch'Allah, j'espère bien que je vais aller de l'avant.
Ben, je vous souhaite bon courage en tout cas, Tierno. Hein?
Oui, merci beaucoup. Oui, merci.
Au revoir.
Au revoir. Bye.
Notez que le Niger a exprimé sa préoccupation après les rapatriements massifs par l'Algérie voisine de plusieurs milliers de ses ressortissants, dont de nombreux y vivent en situation irrégulière. L'Algérie, qui partage 956 km de frontière avec le Niger, est devenue une destination privilégiée pour les migrants des pays subsahariens. Et puis sachez que la Deutsche Welle poursuit sa série de débats sur le sujet du dilemme migration, partir ou rester, les jeunes Africains en quête d'avenir. Et après Bamako, Dakar et Abidjan, notre radio organise un nouveau débat public sur la migration en Guinée cette fois, en collaboration avec Espace TV à Conakry. Si vous êtes dans la capitale guinéenne, mercredi 8 novembre prochain, vous êtes invité à y participer. Il suffit de vous rendre à partir de 14h à l'université Kofi Annan à Conakry. Nos invités discuteront des différents aspects qui entourent la migration irrégulière, des raisons profondes qui poussent les jeunes à partir, jusqu'aux difficultés rencontrées par les migrants durant leur voyage, éventuellement après leur rapatriement au pays. Il sera aussi question de l'impact social et humanitaire de la migration irrégulière et des solutions à apporter à ce problème. Et vous serez bien sûr invités à poser vos questions. Voilà, si vous voulez réagir à ce club ou sur tout autre sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par exemple. Mon adresse c'est mireille.drone@dw.com. Je vous rappelle aussi que vous pouvez consulter notre site internet en tapant dw.com/français-sans-cédille. Vous y retrouverez toutes nos émissions à télécharger dans la rubrique médiathèque en haut de la page d'accueil, ainsi que les liens vers nos pages Facebook et Twitter. Si vous voulez recevoir nos infos via WhatsApp, il vous suffit de taper dw.com/WhatsApp pour vous inscrire, ce qui vous permettra non seulement de nous laisser des messages, parlés ou écrits, mais aussi de recevoir nos informations. D'autant plus que, je vous rappelle, que depuis le 29 octobre dernier, nous avons cessé, hélas, la diffusion de nos émissions radio sur les ondes courtes. Vous pouvez donc, en revanche, les suivre via les radios partenaires de la nôtre, qui retransmettent nos programmes en FM. Et pour cela, vous pouvez consulter la liste sur le lien suivant, dw.com/partenaire. Voilà, restez-nous fidèles et j'espère vous lire ou vous entendre très bientôt. En attendant, bonne continuation à tous. Au revoir. Aventurier.